Leçon 9. Application. Objectif de la leçon. 1. Être conscient des faux substituts de l'application biblique. 2. Suivre un processus pour passer de l'interprétation à l'application du texte. 3. Connaître les questions spécifiques à poser afin de trouver des applications du texte. 4. Pratiquer ces étapes sur des passages choisis de l'écriture. Introduction. Thierry dit: Pasteur, pouvons-nous nous rencontrer? J'ai une grande question à propos de la Bible. Plus tard dans la semaine, le pasteur a rencontré Thierry et examiné plusieurs écritures qui répondaient à son problème. Après quelques minutes, Thierry ferma sa Bible et dit: Laissez-moi être honnête, je sais déjà ce que dit la Bible, mais je ne veux pas faire ça, c'est trop difficile pour moi. Le problème pour Thierry n'était pas l'interprétation, mais l'application. Il ne suffit pas d'observer ce que dit l'écriture et d'en interpréter le sens, nous devons l'appliquer à nos vies. Trop souvent, l'étude de la Bible s'arrête à l'étape de l'interprétation. Nous commençons par observer ce que dit le texte. Nous poursuivons en interprétant ce que cela signifie. Nous devons finir en appliquant le texte à nos vies. Nous pouvons résumer ce processus avec trois questions. Que dit le texte? Observation. Que signifie le texte? Interprétation. Comment le texte fonctionne-t-il dans ma vie? Application. Substitut pour l'application. Le psalmiste a écrit que la personne qui se réjouit de la loi du Seigneur et qui médite sur la loi sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Psaume 1, 2 à 3. Satan essaie de nous tenir à l'écart de la Bible. Il sait que nous nous affaiblirons et mourrons spirituellement si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu. Le contenu de cette leçon est adapté de Howard G. Hendricks and William D. Hendricks Living by the Book, Chicago, Moody Publishers, 2007. S'il ne peut pas nous tenir à l'écart de la parole de Dieu, Satan essaie de nous empêcher d'appliquer la vérité à nos vies. Aussi longtemps que nous ne vivons pleinement la parole de Dieu, nous ne porterons pas de fruits. Si Satan ne peut pas nous empêcher de lire la Bible, il nous incitera à accepter un substitut à l'application. Nous substituons l'interprétation à l'application. Il est possible d'étudier attentivement un passage biblique et d'en déterminer le sens sans le mettre en pratique. Lorsque David entendit la parabole de Nathan à propos d'un homme riche qui vola la brebis d'un pauvre, il répondit avec la bonne interprétation. « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » 2 Samuel 12, 5 à 6. L'interprétation de David était correcte. Il a répondu au nom du Seigneur, il a exigé la justice, il a requis la réparation. Personne ne peut critiquer l'interprétation de David, mais David manqua d'appliquer la parabole à sa propre vie. Le prophète a fait l'application « Tu es cet homme-là » 2 Samuel 12, 7. C'est un danger particulier pour les prédicateurs et les enseignants. Nous pouvons enseigner l'Écriture aux autres tout en ignorant notre propre désobéissance. Jacques a averti contre l'interprétation sans l'obéissance. Celui donc, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques 4, 17. Après avoir correctement interprété l'Écriture, nous ne devons pas manquer de la mettre en pratique. Nous ne devons pas substituer l'interprétation à l'application. Nous substituons l'obéissance partielle à l'obéissance totale. Il est possible d'étudier un passage de l'Écriture, d'en déterminer son sens et d'y trouver des domaines d'application sans pour autant le laisser nous transformer entièrement. Nous pouvons trouver des domaines où nous obéissons à l'Écriture, mais nous pouvons ignorer les plus profonds domaines de désobéissance dans notre vie. Peut-être nous avons étudié Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Lors de l'étape de l'application, nous examinons nos relations importantes. Nous demandons « Est-ce que mes sermons édifient-ils ma congrégation ?» Oui, je suis un pasteur fidèle. Est-ce que j'utilise des mots d'encouragement à l'égard de mes enfants? Oui, je suis un parent aimant. Est-ce que j'édifie mon conjoint? Non, je suis souvent négatif dans mes réponses. Votre communication avec votre conjoint est le lieu où l'Esprit de Dieu veut vous transformer. Satan vous tente de substituer l'obéissance dans d'autres domaines à une application transformatrice de ce texte dans votre relation avec votre conjoint. Il vous tente d'accepter une obéissance partielle au lieu de vous engager pleinement dans une obéissance totale. Nous substituons des excuses à la repentance. Un docteur de la loi a demandé à Jésus « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Luc 10, 25. Le docteur de la loi connaissait déjà la réponse « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Le docteur de la loi a compris l'écriture. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Luc 10, 29. Son problème n'était pas l'interprétation, son problème était l'application. Le docteur de la loi a justifié son manque d'amour. Peut-être que l'Esprit de Dieu vous dit, « Vos paroles ne sont pas édifiantes pour votre conjoint. » C'est une communication destructrice. Vous avez lu la parole, vous avez interprété la parole. Il est maintenant temps de mettre en pratique la parole. Au lieu de cela, vous pensez peut-être, mon conjoint est toujours négatif. Si je suis négatif, c'est parce que mon conjoint est si négatif. Ce n'est pas ma faute. Qu'avez-vous fait? Vous avez excusé votre comportement au lieu de vous repentir de votre manque d'obéissance à la parole de Dieu. Nous substituons l'émotion à la transformation. Jacques a écrit au sujet d'une personne qui entend la parole mais qui ne la met pas en pratique. Jacques 1, 23 à 24. Parfois, une personne entend la parole et a véritablement touché, mais elle laisse une réaction émotionnelle se substituer à un véritable changement. Tout pasteur connaît la frustration de prêcher sur un sujet, d'entendre les gens dire « ce sermon m'a convaincu » et ensuite ne pas voir de transformation durable. Peut-être vous entendez Éphésiens 4, 29 enseigner lors d'un séminaire sur le mariage. Dans un moment d'engagement à la fin du séminaire, vous dites à votre conjoint « je suis désolé ». Je veux prononcer des paroles positives. Je ferai mieux. Cependant, vous retombez vite dans vos vieilles habitudes de paroles dures, de déclarations négatives et de communications blessantes. Que s'est-il passé? Il y a eu une réponse émotionnelle, mais pas de véritable transformation. C'est dangereux. Après des échecs répétés, nous finissons par être convaincus que la transformation est impossible. Une réaction émotionnelle à la vérité doit être accompagnée d'une transformation et d'une obéissance véritable, qui ne sont possibles que si nous nous soumettons à l'action du Saint-Esprit. Étape pour appliquer l'Écriture. Après avoir décrit la personne qui se regarde dans un miroir et oublie ensuite à quoi elle ressemble, Jacques décrit la personne qui applique correctement l'Écriture dans sa vie. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, 25. Il ne suffit pas d'entendre la parole, nous devons appliquer la parole. Qu'est-ce qui était nécessaire à une bonne application de l'Écriture? Afin d'appliquer correctement l'Écriture, vous devez faire trois choses. Étape 1, connaître le sens de l'Écriture. C'est pourquoi les leçons sur l'observation et l'interprétation sont importantes. Si nous ne connaissons pas le texte, notre application ne sera pas correcte. Nous commençons l'étape de l'application en demandant comment les chrétiens du 1er siècle ont-ils appliqué cette écriture dans leur monde. Par exemple, Paul a écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Certains enseignants ont interprété cela comme une promesse que nous pouvons accomplir tout ce que nous désirons car Christ me donne la force. Les athlètes proclament « Je gagnerai le match d'aujourd'hui » car je peux tout par Christ. Les guérisseurs, par la foi, assurent leurs auditeurs, si vous avez suffisamment la foi, vous serez guéris, car vous pouvez tout par Christ. Les prédicateurs d'un faux évangile de prospérité annoncent, Dieu veut vous rendre riche. Tout ce que vous devez faire, c'est de coopérer avec Dieu. Vous pouvez tout par Christ. Quand nous nous demandons, comment les chrétiens de Philippe ont-ils appliqué ce verset? Nous constatons qu'il ne s'agissait pas d'une promesse de réussite matérielle, mais d'une promesse d'endurance spirituelle. Paul était en état d'arrestation à Rome. Son auditoire était persécuté. Il ne voulait pas dire qu'il avait réussi matériellement, mais qu'il était capable de persévérer en toutes circonstances par la foi et l'obéissance. Car Paul a appris à être satisfait en toutes circonstances à travers Christ. Il pouvait faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Cela ne signifiait pas une vie de confort, cela signifiait qu'il ne perdait pas son esprit de contentement face aux difficultés. Étape 2, comprendre comment l'Écriture s'applique à la vie. Paul a averti Timothée qu'il devait se connaître lui-même pour servir efficacement les autres. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » 1 Timothée 4, 16. En accordant une attention particulière à lui-même et à la doctrine qu'il prêchait, Timothée exercerait un ministère efficace auprès de ses auditeurs. Après avoir compris le texte et son application à ses premiers lecteurs, je dois me connaître moi-même et comprendre comment il s'applique à mon monde. Peut-être que je m'observe et je réalise que je ne m'attends généralement pas à ce que Dieu me bénisse et m'aide. Philippiens 4, 13 me dit d'affronter les défis de la vie avec confiance car « je puis tout par celui qui me fortifie ». Maintenant, l'application devient claire et précise. À côté de ce verset, je pourrais écrire « En travaillant dans un environnement contraire aux valeurs chrétiennes, je ferai confiance à la grâce de Dieu pour me fortifier et me rendre fidèle. Je puis tout par Christ. Cela fait passer le verset du 1er siècle au 21e siècle. Une application correcte de l'Écriture sera efficace dans le monde réel. La parole de Dieu s'applique à tous les domaines de la vie. Lorsque j'applique l'Écriture, je ne me demande pas « Quelle est l'application religieuse de ce texte ?» Je me demande plutôt « Comment ce texte sera-t-il vécu dans chaque domaine de la vie ?» John Wesley a écrit « L'Évangile du Christ ne connaît de religion que le social, de sainteté que la sainteté sociale. » Préface de l'édition de 1739 de Hymns and Sacred Poems. Nous vivons l'Évangile non pas comme des moines cachés de la société, mais comme des croyants en relation avec les autres. Nous grandissons en sainteté, non en nous séparant des autres, mais dans le contexte d'une communauté ecclésiale. Nous avons étudié précédemment l'Épître aux Éphésiens 4, 29. En réfléchissant à l'application de ce verset, je devrais l'appliquer à mes relations avec mes frères chrétiens. Mes paroles édifient ou détruisent-elles mes frères croyants ? Je devrais relier ce verset à ma famille. Ma conversation construit-elle ma famille ou affaiblit-elle la confiance de mon conjoint et de mes enfants ? Je devrais relier ce verset à mon travail. Suis-je un employé qui tient des propos positifs ou qui propage des idées négatives ? Éphésiens 4, 29 concerne tous les domaines de la vie. C'est pourquoi Paul a écrit que les serviteurs qui vivent correctement avec leur maître honoreront en toute chose la doctrine de Dieu notre Sauveur. Tite 2, 10. Une application rigoureuse de l'Écriture rend l'Évangile attrayant pour les gens qui nous entourent. Étape 3. Obéir à l'Écriture. Le but ultime de l'étude de la Bible est l'application quotidienne. Dans 2 Timothée 2, 3 à 6, Paul décrit les chrétiens comme des soldats, des athlètes et des laboureurs. Ces images décrivent quelqu'un qui poursuit un objectif avec persévérance. Le soldat ne se repose pas au combat, l'athlète ne s'arrête pas à mi-parcours de la course. Le laboureur n'arrête pas de labourer jusqu'à ce qu'il ait terminé son travail. La vie chrétienne exige de l'endurance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, 1. En étudiant l'Écriture, demandez-vous, y a-t-il un domaine de ma vie où je devrais mettre en pratique cette vérité ? Demandez à Dieu de vous aider à appliquer systématiquement cette vérité dans votre vie. En faisant cela, Dieu vous révélera plus de vérité. Vous développerez encore un plus grand appétit pour la nourriture spirituelle. Si Dieu parle à travers Éphésiens 4, 29 pour vous convaincre de vos discours, vous devriez vous engager à pratiquer un discours qui édifie. Cela peut être aussi simple que de demander à Dieu de vous donner une occasion par jour d'apporter la grâce dans la vie de quelqu'un. Cela peut signifier demander à un ami de confiance de vous avertir lorsqu'il vous entend utiliser des propos blessants. Cela devient une façon de mettre en pratique la parole de Dieu au quotidien. À l'université, un jeune homme luttait contre un certain domaine de tentation. Michel aimait la musique incluant des styles avec des textes qui le tentaient dans son domaine de faiblesse. Michel voulait la victoire sur la tentation, mais il n'appliquait pas de façon cohérente l'écriture dans sa vie. En septembre, l'école organisait des cultes de réveil. Michel allait à l'hôtel. Il retournait dans sa chambre et jetait sa musique inappropriée. Pendant quelques semaines, il avait un brillant témoignage, puis il commençait à acheter de nouveaux enregistrements de ce style. Bientôt, il fut découragé. En novembre, il déclarait « J'ai rétrogradé ». En février, l'école organisait une conférence biblique. Michel allait à l'hôtel. Il jetait ses enregistrements et avait un brillant témoignage pendant quelques semaines. Puis, en avril, il achetait d'autres enregistrements et le processus reprenait encore. De quoi Michel avait-il besoin ? Une meilleure interprétation ? Non. Il connaissait son domaine de faiblesse, il savait ce que la Bible disait sur la pureté de l'esprit, il connaissait l'impact de certaines musiques sur sa marche spirituelle. Le problème de Michel n'était pas l'interprétation, il avait simplement besoin de mettre en pratique ce qu'il savait. Dans quel domaine d'application devez-vous vous exercer ? Question à poser. Il peut être utile de poser ces 5 questions lorsque vous cherchez des moyens d'appliquer l'écriture à la vie. 1. Y a-t-il un péché à éviter ? Trop de chrétiens désespèrent lorsqu'ils découvrent qu'un domaine dans leur vie ne répond pas aux exigences de l'Écriture. Lorsque Dieu nous parle par sa parole d'un domaine de péché dans notre vie, nous ne devrions pas désespérer. Au contraire, nous devons obéir volontairement à sa parole. 2. Y a-t-il une promesse à réclamer ? Parfois, l'application consiste simplement à réclamer les promesses de Dieu. Nous devons veiller à interpréter correctement la promesse. Certaines promesses ont été faites à des individus précis ou à la nation d'Israël. Nous devons veiller à ne pas les sortir de leur contexte. Cependant, lorsque nous avons soigneusement interprété la promesse dans son contexte biblique et que nous savons qu'elle s'adresse à tous les croyants, nous pouvons la réclamer pour nos vies. 3. Y a-t-il une action à mener ? Demandez-vous, que dois-je faire à la lumière de ce passage de l'Écriture? Quelle vérité ce passage enseigne-t-il? M'avertit-il d'une erreur dans ma doctrine? Ai-je besoin de changer ma façon de penser pour me conformer à l'Écriture? Quelle action dois-je mener à cause de cette Écriture? Un exemple est la prière. En lisant les prières de David, Paul, Néhémie et Jésus, nous trouvons des modèles pour notre propre vie de prière. Quoi de mieux pour apprendre à prier que de copier les prières de Paul ou de Jésus? En les lisant, je peux agir en adaptant ces prières à ma propre vie. 4. Y a-t-il un commandement auquel obéir? La seconde moitié des lettres de Paul est généralement composée de commandements. Ces commandements sont généralement très simples et directs. Parfois, les chrétiens recherchent des vérités profondes en négligeant la simple application de ce qu'ils savent déjà. Quelqu'un a écrit sur le danger de rechercher des vérités profondes en ignorant la vérité évidente. Il a raconté ses premières études du Nouveau Testament grec. Dans Matthieu 16, 24, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le grec original n'a pas de sens différent et surprenant. En grec, ce verset signifie exactement ce qu'il semble signifier. Il n'est pas difficile d'en comprendre le sens. Il est plutôt difficile d'y obéir. Adapté de Andy Crouch, Information and Formation dans Christianity Today, mars 2014, disponible en ligne sur christianitytoday.com. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un simple « Oui, Seigneur, j'obéirai ». 5. Y a-t-il un exemple à suivre? Une grande partie de l'Écriture contient des biographies. En les lisant, nous nous demandons « Y a-t-il un exemple à suivre ?» Quand nous lisons l'histoire d'Abraham dans Genèse 18, nous pouvons suivre l'exemple d'Abraham en intercédant pour notre monde. Un enseignant enseignait au Nigeria. Le Nigeria a été déchiré par un conflit entre musulmans et chrétiens. Un élève a demandé à ses camarades « Pourquoi combattons-nous les musulmans plus que nous ne prions pour eux? Croyons-nous que Dieu soit capable de les mener au salut? Si oui, nous devrions suivre l'exemple d'Abraham et intercéder pour leur salut. C'est l'application? Mettez-le en pratique. » Nous avons fait des observations sur Romains 12, 1 à 2. Nous avons fait l'étude de mots des termes importants de ces versets. Nous avons étudié le contexte historique, culturel et biblique afin d'interpréter correctement le message de Paul. Nous sommes maintenant prêts pour l'étape la plus importante. Comment allez-vous appliquer Romains 12, 1 à 2 dans votre vie? Activité, révisez les notes sur Romains 12, 1 à 2 que vous avez prises lors des leçons précédentes. Puis, indiquez trois actions concrètes que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie. Conclusion. Ce cours porte sur l'interprétation de la Bible afin de l'enseigner aux autres. C'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que ministres de la parole de Dieu. Cependant, cela comporte un danger. Si nous n'y prenons garde, nous pouvons étudier la Bible uniquement pour la prédication et l'enseignement. Nous pouvons échouer d'appliquer la vérité biblique dans nos propres vies. L'étude de la Bible n'a pas pour seul objectif l'apprentissage et l'enseignement. La parole de Dieu peut être comparée à la nourriture qui nous nourrit physiquement. Manger a des effets quotidiens et à long terme. Vous ne réduisez pas votre cholestérol avec un seul repas sain et vous ne développez pas votre force spirituelle en une seule journée consacrée à la parole de Dieu. Autant il faut une alimentation saine et régulière pour développer la santé physique, autant il faut un régime à long terme de la parole pour développer la force spirituelle. Tout comme un bon petit déjeuner vous aide à affronter une dure journée de travail, autant le repas quotidien de la parole est important pour affronter toutes les épreuves de la journée. En tant que pasteur, enseignant et responsable d'église, nous ne devons jamais oublier que nos propres vies spirituelles doivent être nourries quotidiennement. Dans nos efforts pour enseigner aux autres, nous ne devons pas oublier de nourrir nos propres cœurs avec le pain de la parole de Dieu. C'est seulement en nous nourrissant nous-mêmes que nous avons la force spirituelle nécessaire dont nous avons besoin pour servir le peuple de Dieu. Paul était bien conscient de ce danger. Il a écrit sur la terrible possibilité d'être lui-même disqualifié après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27. Quelle chose terrible d'enseigner aux autres tout en rejetant la grâce de Dieu dans nos propres cœurs. Étudier pour enseigner aux autres, mais aussi étudier pour entendre Dieu parler à ton propre cœur. Mettez-le en pratique. Activité, Luc 14, 25-17. 10 est une série de paraboles et d'instructions. Lors de son dernier voyage à Jérusalem, Jésus a donné sa dernière instruction à ses disciples. En lisant l'enseignement de Jésus, trouvez des applications concrètes de ces versets. Demandez-vous, y a-t-il un péché à éviter? Y a-t-il une promesse à réclamer? Y a-t-il une action à mener? Y a-t-il un commandement auquel obéir? Y a-t-il un exemple à suivre? Leçon 9. Point clé. 1. Il ne suffit pas d'interpréter correctement la parole de Dieu. Nous devons l'appliquer dans nos vies quotidiennes. 2. Satan nous tente de remplacer l'application par des substituts. Nous pouvons substituer l'interprétation à l'application. Nous pouvons substituer l'obéissance partielle à l'obéissance totale. Nous pouvons substituer des excuses à la repentance. Nous pouvons substituer l'émotion à la transformation. 3. Afin d'appliquer l'écriture dans nos vies, nous devons suivre 3 étapes. Connaître le sens de l'écriture, comprendre comment l'écriture s'applique à la vie, obéir à l'écriture. 4. Pour trouver des moyens d'appliquer l'écriture dans votre vie, posez-vous ces questions. Y a-t-il un péché à éviter? Y a-t-il une promesse à réclamer? Y a-t-il une action à mener? Y a-t-il un commandement auquel obéir? Y a-t-il un exemple à suivre?